Juste quelques précisions, je rentre d'un séjour de 5 semaines à Beyrouth où on mélange l'arabe, le français et l'anglais, donc mon français est un tout petit peu laborieux, je n'en voulais pas. Autre chose, je suis extrêmement stressé à l'idée de parler en public, donc je vais souvent regarder mes notes. Alors l'intitulé de ma carte blanche, c'est sur la guerre, les rapports entre la guerre et la littérature. Lien qui forme, à mon sens, peut-être l'essentiel de mon travail. Avant d'en venir à ce que moi j'ai pu écrire et au projet auquel je travaille ici, je vais faire vraiment un petit exposé précisément sur la nature de ce lien entre la guerre et la littérature. Un des livres sur lesquels je m'appuie est notamment celui-là de Pierre Bernoulliou, qui s'appelle Jusqu'à Faulkner. Donc c'est un livre sur Faulkner, mais qui parle évidemment de beaucoup plus de choses que de Faulkner. Il y a un autre livre de Bernoulliou, mais qui n'était pas en rayon, qui s'appelle Le récit absent, dans lequel il théorise un petit peu plus ces choses-là. Je vais parler aussi de ce livre-là, de Jean Norton Cru, qui s'appelle Du témoignage, chez Alia, et de deux œuvres d'Alexievitch, La guerre n'a pas un visage de femme et Les cercueils de zinc. Et ensuite, je parlerai un petit peu de mes livres. Il y a une espèce de lien presque consanguin entre la littérature et la guerre, puisque un des premiers grands textes de l'histoire de la littérature occidentale, c'est l'Iliade, qui raconte la guerre de Troie. La particularité, en réalité, de ce rapport-là consanguin, c'est qu'il y a une espèce de fossé, de gouffre, entre l'événement lui-même, c'est-à-dire la guerre de Troie, et son expression, c'est-à-dire le poème d'Homère. Il s'écoule 3 siècles, en réalité, entre le moment où se déroule la guerre de Troie et sa formalisation par Homère. Ce gouffre, en fait, va persister tout au long de l'histoire, avec quelques exceptions notables, comme au Moyen-Âge, le poète d'Aubigné, qui avait lui-même participé aux guerres de religion, mais qui a également écrit le poème des massacres de la Saint-Barthélemy. Mais en réalité, jusqu'à la Révolution française, la guerre était faite par une minorité, c'est-à-dire soit des demi-dieux et des dieux dans la mythologie grecque, soit des chevaliers, des nobles ou des mercenaires, c'est-à-dire une minorité, une caste, soit instituée de naissance, soit de profession spécialisée dans le métier des armes. Leur guerre était racontée par une autre minorité, qui était celle des poètes, ceux qui maîtrisaient la plume, qui soit inventaient les histoires, les reconduisaient, ou alors formaliser le travail des traditions orales. C'était le cas des chansons de geste, par exemple. Avec la Révolution française, va s'opérer un bouleversement radical de ce partage. C'est-à-dire que le métier de la guerre va s'élargir à l'ensemble des citoyens. Un peu comme en Suisse. Le citoyen français, à partir de la Révolution française, et encore plus sous l'Empire napoléonien, est potentiellement un soldat. Donc la minorité des armes est brisée et c'est n'importe qui peut prendre des armes et faire la guerre. Dans le traitement, disons, disons que la levée des masses et la participation du citoyen à la guerre est en avance en quelque sorte sur la littérature, puisque en gros, jusqu'à Stendhal, le modèle épique transmis depuis Homère jusqu'à Napoléon persiste. On croit encore aux valeurs de l'héroïsme, de la bravoure, du sacrifice, de la divinité du chef qui conduisant ses armées avec sagesse et courage. Toutes ces idées-là persistent, sont même réactualisées par l'épopée napoléonienne. C'est-à-dire le langage épique depuis Homère jusqu'à Napoléon est quasiment statique en fait, avec évidemment des variations selon les époques, mais globalement, je vais les résumer, en gros c'est des rivières de sang, des amas de cadavres et des batailles ordonnées dans lesquelles les armées se confrontent dans un corps à corps noble. C'est une espèce de, disons, de presque un duel en nombre. Il y a une première entorse qui est opérée dans ce système épique, disons, du traitement de la guerre par l'épopée, par le langage de l'épopée. C'est la Chartreuse de Parme de Stendhal. Stendhal ayant lui-même fait les guerres napoléoniennes, écrit dans La Chartreuse, à travers le personnage épris de littérature et de romans sur la guerre, débarque dans la... Fabrice Del Longo, le personnage central, débarque à Waterloo et non seulement ne comprend rien de ce qui se passe, parce qu'il est presque trop près du terrain, mais en plus ne sait même pas s'il assiste à une bataille. Donc tous les tableaux de, presque contemporains qui dépeignaient l'épopée napoléonienne, qu'on peut voir à la Galerie des Glaces par exemple à Versailles, une espèce de tableau gigantesque avec des chevaux qui s'entrechoquent et Napoléon en dorure dominant la masse, sont contredits d'une certaine façon par le récit de Stendhal qui montre que le cadrage même en fait de l'épopée telle que peinte par, par les artistes de l'époque était biaisé et ne correspondait pas à, la, à l'immersion en fait dans l'événement. Il y a un autre phénomène concomitant à cette première entorse, c'est la naissance de la photographie, c'est-à-dire à partir de la guerre de Crimée, plus encore de la guerre de sécession, de l'expédition au Mexique, des photographes ont suivi les armées. Même si à l'époque la photographie était encore dominée par le modèle de la peinture, qu'elle voulait ressembler à la peinture, qu'elle avait des cadrages photographiques et que, picturaux, et que sa, ses limites techniques en fait, lui imposaient un certain, des mises en scène particulières, il n'y avait pas d'instantané, quoi. La peinture était la photographie commençait à être considérée comme un document de vérité. C'est-à-dire, plus que la peinture, on estimait que la photographie, du fait que c'est, le c'est une production d'une machine, ne pouvait pas être subjective, qu'il n'y avait pas d'artiste derrière, que c'était une, voilà, un document de vérité. Donc ces deux phénomènes, à la fois le roman stendhalien et la naissance de la photographie de guerre, vont commencer en fait à fissurer l'édifice de l'épopée. La photographie, par exemple, dans la guerre de sécession, c'est là où on voit pour la première fois l'image des cadavres sur les bords de route. On ne voit pas de bataille, au contraire de ce que nous montre la peinture, mais on voit des cadavres sur la route. Mais sans doute la plus grande évolution en fait dans ce rapport entre littérature et guerre, qui vient combler, en tout cas de manière théorique, le gouffre dont je parlais au début, c'est-à-dire entre l'occurrence, le surgissement de l'événement et son expression artistique, va être d'une certaine manière revue à la faveur de la Première Guerre mondiale, qui fait entrer en guerre, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, une génération d'hommes instruits, grâce à l'instruction publique de la Troisième République, et qui donc va être capable de raconter elle-même ce qu'elle voit et ce qu'elle fait. Donc c'est la masse en fait de production des poilus, que ce soit les journaux, la correspondance, les récits, les mémoires, voire même les romans, constitue un savoir nouveau qui dément complètement la légende épique, héroïque, tel que hérité depuis Homère jusqu'à Stendhal pour aller vite. À partir de ce moment-là, on se rend compte que les soldats vivent sur le terrain une réalité complètement différente de celle décidée dans les ministères et les états-majors, qu'il n'est plus question de sacrifices héroïques, mais plutôt de peur, d'angoisse, d'ennui, d'attente de l'ennemi, qu'il n'y a plus presque de corps à corps. L'idée même de... Une légende de la Première Guerre mondiale, c'est de parler des baïonnettes et des combats à la baïonnette. Il y en a eu très très peu, en fait. L'essentiel des morts se faisait par bombardement, soit aérien, soit par l'artillerie, soit de la mitraille. Donc les combats n'étaient même pas engagés, même plus le corps de l'ennemi, mais une espèce de machine lointaine. Donc tous les codes, en réalité, qui ont participé de la fabrique de la légende de la guerre, et qui, d'une certaine façon, politiquement, servaient le discours de la guerre, puisque... Les gens allaient à la guerre avec le désir, la certitude que c'était là un moment de vérité qui va les surélever, faire d'eux des personnages héroïques presque légendaires. À l'intérieur de cette masse de production, qu'on va appeler témoignage pour aller vite, l'intérieur de cette production littéraire de la Première Guerre mondiale, il y a toute une section réservée aux romans. Pendant la Première Guerre mondiale, des romans s'écrivaient durant le conflit, pour l'essentiel par des écrivains qui n'étaient pas au front, et qui donc, évidemment, reconduisaient les clichés épiques dont je parlais tout à l'heure, et servaient la propagande patriotique. Ces romans-là avaient le don, évidemment, d'agacer les soldats sur le front qui connaissaient une réalité qui n'avait rien à voir avec la légende. Là où ça devient plus intéressant, c'est qu'il y a des romanciers qui sont partis au front, qui, pour certains, ont écrit des témoignages en bonne et due forme, ou alors des récits, comme Maurice Genevoix, ou alors d'autres qui ont voulu à la fois, disons, avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire de s'autoriser de leur expérience de la guerre, qu'on les reconnaisse comme des écrivains ayant connu le front, et se protéger et s'abriter, disons, derrière la liberté artistique. Et il y a eu un type assez singulier et génial, qui a été décrit à l'époque, mais qui depuis a été réhabilité,